Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour à chacun, à tous, et je voudrais simplement introduire notre lecture ce matin à travers un simple verset. Nous allons prolonger d'ici quelques instants le récit, mais je commencerai tout simplement dans le livre des Juges, chapitre 5, et le verset premier, livre des Juges. Alors, ça se trouve après le livre de Josué, si ça peut vous aider à situer un petit peu parmi toutes ces pages de la Bible qui sont nombreuses. Livre des Juges, chapitre 5, verset 1er. Écoutez bien. « En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. » Déborah chanta ce cantique. Alors j'aimerais dire, pour bien saisir... bien comprendre ce qui va suivre, c'est que on suppose, les commentaires, on suppose que cet écrit est un cantique à la manière des psaumes, on peut le présenter de cette manière, chanté un jour de fête où on célébra la victoire d'Israël sur ses ennemis qui ont été vaincus. Le livre des Juges nous rapporte, avec le livre de Josué, beaucoup de batailles. Des guerres qui ont eu lieu entre le peuple d'Israël, le peuple élu, le peuple de Dieu, et puis tous ses ennemis alentour. Les choses auraient pu être autrement si véritablement Israël avait obéi à Dieu complètement, parce que le pays qui lui était donné, qui lui était octroyé, c'était un pays qui devait être que pour lui. Mais comme ils n'ont pas été plus loin, ils ont fait que la moitié du parcours, eh bien ils ont eu aussi autour d'eux, parmi eux, finalement des ennemis, qui quelquefois prenaient le dessus sur eux, et pour de bonnes raisons, on le verra tout à l'heure. Ce chant a un caractère d'hymne triomphal, j'allais dire peut-être national, mais l'hymne triomphal, qui est une invitation, tout simplement, pour les Israélites, et qui peut nous inspirer ce matin, alors que nous avons eu un temps d'adoration, de louange, de chant, eh bien tout simplement, à louer Dieu, à lui apporter le témoignage de notre reconnaissance pour l'état de sécurité et de paix qui suit la bataille. Voilà. Alors, c'est peut-être l'histoire parfois des églises, où, tant dans l'évangélisation qu'à l'interne ou en interne, il y a eu des problèmes, des difficultés, parfois des divisions, parfois des gens qui ont été méchants et qui, véritablement, n'ont pas tenu compte, ont été irrespectueux vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis peut-être des autres. Et ce cantique, justement, met en évidence cette victoire qui n'a pas été la victoire d'Israël, mais la victoire de Dieu à travers Israël. Et ça, c'est quand même important. Et c'est pourquoi nous avons lu ceci. Alors, quand Déborah a chanté tout cela avec Barak, elle chantait la sécurité retrouvée, elle chantait la paix, elle chantait l'unité qui s'est manifesté à ce moment-là et qui était véritablement une transition extraordinaire que l'on apprécie après la guerre. Après les guerres, il y a toujours un temps de repos où on reconstruit. Un temps où véritablement on souffle et la vie reprend. Dans les malheureusement l'histoire, notre histoire en France, quand il y a eu des drames comme cette guerre dont on célèbre le centenaire maintenant et puis celle qui a suivi, il y a eu comme une folie à ce moment-là, il y a eu comme une joie, les gens dansaient dans les rues, les gens étaient là exaltés parce que à travers les privations, à travers l'occupation, à travers toutes ces choses, c'était quand même quelque chose qui a changé, quelque chose qui était comme un ballon d'oxygène. Et quand ce cantique a été créé, chanté par Déborah, ça faisait 20 ans, imaginez-vous, que le roi de Canaan qui s'appelait Jabin persécutait le peuple d'Israël. 20 années d'occupation, 20 années de troubles et de guerre. Alors c'est pas une paille, faut le vivre quand même, parce que 20 ans c'est une génération. Alors le sujet, nous allons le voir par le détail maintenant, c'était tout simplement le zèle. ou l'ardeur et la ferveur que manifestaient les Israélites, et entre autres à travers Déborah, eh bien la gloire de Dieu pour cette délivrance qui avait été donnée. Il y a deux personnages qui apparaissent, nous les avons lus tout de suite dès le départ. Il y a là naturellement eh bien une femme qui s'appelle Déborah, qui est une héroïne et qui chante la victoire, et il y a un homme du nom de Barak, dont le nom veut dire en hébreu « éclair ». Et c'est un vaillant chef de guerre. Alors, c'est ainsi que les choses peuvent se déterminer, comme elles sont présentées de cette manière. Vous savez que le nom Déborah, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, le nom Déborah ? Abeille. Voilà, je vois papa là-bas qui est en train de faire un signe, parce qu'il a une fille qui s'appelle Déborah. Voilà. Hein ? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un fils qui s'appelle Barak ? On connaît Barak, monsieur Barak. Vous voyez de qui je veux parler ? Hein ? D'accord. Bon, ben, vous voyez que c'est pas un nom nouveau, hein, naturellement. Alors, on va lire maintenant, dans le chapitre 5, on va passer la première étape, et on va lire dans le chapitre 5, versets 6 à 18, on va le lire ensemble tranquillement. Alors, « Au temps de Shamgar, fils d'Anat, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, il avait choisi de nouveaux dieux, alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 000 en Israël. Mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. Vous qui montez de blanches ânesses, vous qui avez pour siège des tapis, et vous qui marchez sur la route, chantez. Et de leur voix, les archers, du milieu des abreuvoirs, célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël. Alors, le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, disent un cantique. Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d'Abinoam. Alors un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. Éphraïm arrivèrent des habitants d'Amalek. À ta suite marche Benjamin parmi ta troupe. De Makir vinrent des chefs et de Zabulon des commandants. Les princes d'Issacar furent avec Déborah et Issacar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée près des ruisseaux de Rubin. Grandes furent les résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables, à écouter le bêlement des troupeaux, au ruisseau de Rubin? Grandes furent les délibérations du cœur. Galad, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan s'est-il tenu sur les navires? Aser s'est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Zabulon est un peuple qui affronte la mort, et Neptali de même, sur les hauteurs des champs. » Alors, comment commenter ce récit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, qui rentrent en jeu, mais c'est toute une histoire. Une histoire qui commence déjà au chapitre 4, hein, vous pourrez le lire peut-être dans vos lectures de cette semaine, et puis qui se perdure après ce verset tout simplement 18. Et il y a quelque chose d'intéressant qui peut servir à notre édification. Et je voudrais rappeler le contexte. C'est un temps d'opposition, c'est un temps d'occupation insupportable, parce que les ennemis d'Israël sont partout, ils sont même dans le peuple. Et on s'aperçoit que ça a été ça la caractéristique, finalement, eh bien, de toute cette période que l'on appelle le Moyen-Âge d'Israël. Les Juifs ou les Hébreux avaient fait des expériences extraordinaires pour sortir d'Égypte dans le désert. Et puis à un moment donné, eh bien, ils avaient pris là toutes sortes d'habitudes. Ils s'étaient tout simplement, on pourrait dire, avachis, reposés à écouter le bêlement des troupeaux. Alors ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que finalement, eh bien, peu à peu, on perdait la notion de Dieu. Peu à peu, on perdait la foi. Peu à peu, on se laissait envahir par toutes ces mode, toutes ces méthodes, toutes ces manières d'être, de vivre, de toutes les nations qui étaient tout autour. Et ce qui se passait, c'est que Dieu ne trouvant plus son peuple, Dieu se retirait, et les Israélites, à ce moment-là, se retrouvaient seuls. Et il se retrouvait envahi avec toutes sortes de problèmes et de difficultés insurmontables, qui duraient 20 ans, qui duraient 30 ans, qui duraient 40 ans. Alors à ce moment-là, quand ils en avaient par-dessus la tête, vous savez ce qu'ils faisaient ? Ils criaient à Dieu, et Dieu venait tout à nouveau au secours en leur donnant un juge, un héros, un homme qui se levait comme Barak, comme Déborah. On va voir pourquoi Déborah, parce qu'elles sont rares les femmes hein, qui ont été chefs de guerre. Mais pourtant il y en a. Alors on va considérer un petit peu tout ça. Et le cliché à retenir de notre lecture, c'est la combativité. La combativité de certains parmi le peuple d'Israël et l'indifférence des autres qui vont rester passifs. Il y a un problème, il y a des problèmes, il y a des situations insurmontables. Il y a des gens dans les tribus, entre autres 6 tribus, qui vont se lever en disant « Nous voulons Dieu ». Nous voulons que ce soit Dieu qui soit notre Dieu et pas les faux dieux. Il y avait en effet toutes sortes de détresse hein. Et ils ont pris un peu la devise de Josué, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Envers et contre tout, ils étaient prêts à donner leur vie. Et puis il y avait les autres. Les autres qui étaient installés dans le pays de Canaan où coule le lait et le miel, et il coulait de beaux jours. Mais ils ne s'imaginaient pas qu'ils étaient en train de descendre. Ils étaient en train de s'effondrer, parce qu'il y avait là tout un contexte qui faisait que, merci Seigneur, tu m'as béni. Et puis après, Dieu est oublié, hein, très vite. Vous savez que c'est plus facile. C'est plus facile de dégringoler quand on est dans une forme d'abondance que quand on est dans la disette et dans les détresses et les épreuves. Parce que les détresses, les épreuves, elles nous aiguillonnent. Et elles nous donnent de nous accrocher. Soit elles nous font tomber, ou alors elles nous donnent de réagir vigoureusement, moralement et spirituellement. Donc il y avait les deux cas, et c'est intéressant de le voir ce matin, ces deux cas. Ceux qui vont dire non, on n'accepte pas l'opposition, on n'accepte pas la division, on n'accepte pas la guerre, on n'accepte pas tous ces ennemis qui veulent nous manger. Et puis les autres disaient, on peut faire quand même avec. Hein. Vous savez, c'est Paul qui nous dit aspirer aux choses d'en haut. Hein. Aspirer aux choses d'en haut. Et ça, je crois que c'est une exhortation qui doit être donnée dans tous les temps de l'Église, et particulièrement dans notre temps, où quelque part on dit il y a des difficultés, il y a des problèmes autour de nous, que ce soit sur le plan social, professionnel, économique, etc., etc. Mais on n'a encore rien vu, frères et sœurs. Vous savez, nos parents et nos grands-parents ont vu pire que nous, hein. Et à un moment donné, on se dit, finalement, c'est pas mal, on s'y accoutume. Alors faisons attention, parce que c'est le sujet, c'est tout simplement le cliché que l'on peut retenir. En d'autres termes, où en est l'Église quand il faut se mobiliser dans les combats, et pas n'importe combat, on n'est pas là pour s'envoyer des coups de poing, on n'est pas là pour lutter comme nous pourrions peut-être l'exprimer d'une manière charnelle, mais l'Église est en face de combats qu'elle doit mener. Et si elles ne sont pas menées, eh bien ce sera l'adversaire qui va avoir le dessus. Croyez bien, hein, et d'ailleurs de toute façon il fait pour nous endormir. Hein. Vous savez, en 1939, on appelait ça la drôle de guerre. On avait mobilisé, je crois, près de 9 à 10 millions de soldats en France, et ils étaient là sur les lignes de l'Est, et ils n'avaient rien à faire pendant plusieurs mois. Oh, le jour où c'est arrivé, on sait ce qui s'est passé après. Ça s'est appelé tout simplement la débâcle. Enfin, c'est un peu de l'histoire. Mais quand même, dans les combats de la foi, et je pense qu'il faut que nous gardions intacte notre foi, frères et sœurs, que nous gardions non pas notre agressivité, parce que c'est pas bon, mais notre combativité, avec la force et la grâce que nous donne le Seigneur. Ce que nous défendons, nous dit Jude, c'est finalement notre foi afin que nous la conservions intacte et qu'elle puisse finalement, glorifier le Seigneur. Parce que c'est dans les expériences que nous allons faire de délivrance, de secours de Dieu, que nous allons voir le Seigneur se manifester au milieu de nous. Et il est glorieux. N'avons-nous pas fait de belles expériences au moment où nous nous sommes convertis? Et il en serait autrement aujourd'hui, après des années de conversion? Non, le Seigneur est toujours le même, et ça, je pense qu'il faut le redire. Il faut aller de l'avant, il n'y a pas le choix, mes frères et sœurs. Soit nous allons de l'avant, ou nous restons en arrière. Il n'y a pas 36 solutions. Alors on va reprendre par le détail ce qu'il nous est dit. Il nous est dit qu'au temps de Shamgar c'était un juge, fils d'Anath, au temps de Jaël, qui était aussi un juge, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Qu'est-ce qu'il nous est dit ? Il nous est donné le cliché d'un état dramatique dans la nation. Un pays qui était occupé, et quand un pays est occupé par une armée étrangère, plus personne ne circule. Tout le monde se cache. réminiscence de ce qui s'est passé dans l'occupation allemande. Hein, vous savez, les gens, ils n'étaient pas sur les routes. Premièrement, il n'y avait pas grand-chose pour pouvoir voyager. Et c'était un peu la condition des Israélites. C'était, les hommes étaient réduits à se cacher. Voilà. Pour nous montrer l'image, eh bien, de la toute-puissance de l'ennemi. On se cache. On ne dit plus rien. On ne fait plus rien. Le pays est à l'arrêt. Le pays est mort, tout simplement. Et puis le verset 16 nous précise que les chefs étaient sans force en Israël, sans force quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Alors là, vous avez finalement une voix qui va... C'était pas l'appel du 18 juin, mais presque. Vous connaissez naturellement. Et c'est l'absence totale d'autorité morale et spirituelle qui régnait en Israël à ce moment-là. Vous savez, quelquefois on rouspète après la déliquescence de notre société, mais dans tous les pays, il faut un chef, hein, y a rien à faire. Ouais. Pas un despote, pas un tyran, pas un malade, mais il faut un chef. Dans une église, il faut qu'il y ait une autorité et une autorité spirituelle, une autorité déléguée par le Seigneur. C'est pas le pasteur qui se proclame, qui s'autoproclame, comme quelquefois on le voit, mais vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit reconnu et qui mis en place par le Seigneur. Autrement, c'est la débandade. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas marcher, naturellement. Et là, nous avons donc cette disparition d'une véritable autorité morale et spirituelle qui fera écrire dans le livre des juges, il n'y avait pas en Israël, il n'y avait pas de roi en Israël, et vous connaissez la formule, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'était le bazar. C'était la cacophonie, c'était des divisions et des tensions, ça ne pouvait pas fonctionner, c'est ainsi que les choses sont présentées. Alors, cette femme qui s'appelle Déborah va se lever, une femme courageuse, avec une autorité, par défaut d'homme disponible et responsable. Et ça, c'était une honte pour les hommes d'Israël. À défaut d'avoir des hommes qui disent maintenant, parce que ça leur revenait, finalement, de conduire et de diriger le pays, eh bien, c'est une femme qui l'a fait. Honte pour les hommes d'Israël. Alors, elle n'a pas fait ni oui, ni une, ni non. Elle s'est présentée, elle a dit maintenant, eh bien, il ne faut pas laisser les choses se faire. Et elle n'a pas été au combat, où elle était peut-être sur le champ de bataille, mais était en retrait. Mais elle a été derrière un homme qui s'appelait Barak, et lui dire, écoute, tu vas y aller. Il faut absolument qu'il y ait un homme, un chef, qui mène finalement la guerre, autrement, ce n'est pas possible. On ne fera rien de plus. Les hommes étaient sans force, nous dit le texte, sans force. C'est pour vous montrer la dégradation du pays. C'était terrible. Le verset 8 nous dit ceci, « Il avait choisi, Israël, entendez par là, avait choisi de nouveaux dieux, alors la guerre était aux portes, on ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. » Qu'est-ce que ça peut supposer? C'est qu'il y avait des causes naturellement à cette situation, et des causes que l'on peut qualifier de dramatiques, qui causaient la dislocation du peuple de Dieu, de la nation de Dieu. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il s'était donné de nouveaux dieux. Et aujourd'hui, faisons bien attention que le peuple de Dieu, que l'Église, ne se donne pas de nouveaux dieux, des idoles, des séductions, ou emporté par des séductions. Jésus nous prévient dans son discours eschatologique, c'est-à-dire qu'il nous parle de son retour, hein, qui est proche. Il nous dit, mais prenez garde que personne ne vous séduise. Ouais, parce que certains diront, je suis Christ, je viens de la part de Dieu, etc., etc. Attention, c'est le mensonge, c'est le remake, hein, si vous voulez, de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden au chapitre 3. Dieu aurait-il réellement dit? Méfions-nous. Nous sommes dans des temps qui sont très difficiles, où les informations, où toutes sortes de choses courent partout, des modes, enfin toutes sortes de choses, et on vient maintenant dire que Dieu est mort, que Dieu n'a aucune puissance, qu'il ne peut rien faire, et que Dieu n'existe pas d'ailleurs. Et c'est pas d'aujourd'hui qu'on le dit. Avec la théologie moderne, c'est ce qui s'est passé. Alors, cause dramatique, ils s'étaient donné de nouveaux dieux, ils avaient fait l'abandon de la vraie foi, et le peuple, en conséquence, était désarmé, et il était vaincu. C'est pour ça qu'il nous est dit, mais la guerre était aux portes. Vous savez, on ne vit pas la guerre comme peut-être nos parents ou nos grands-parents ou nos ancêtres l'ont vécu, mais la guerre, elle est là quand même. Hein. C'est une guerre psychologique, c'est une guerre mentale, c'est une guerre morale. C'est une guerre qui ne nous touche pas à l'extérieur où le sang va couler, il coulera et il coule encore malheureusement. mais où véritablement la destruction se fait à l'intérieur de nos âmes. Parce que si le Seigneur, enfin si Dieu, pardon, si le diable, c'est lui que je cherchais justement. Alors, si le diable, finalement, sait très bien où atteindre les hommes d'aujourd'hui, c'est en les empoisonnant ou en les viciant de l'intérieur. Eh oui, l'apparence est sauve, ouais, mais l'intérieur devient de plus en plus dégradé. C'est une déliquescence, c'est une dégénération. Alors, l'abandon de la vraie foi, un peuple désarmé et vaincu, puisqu'il nous a dit qu'il n'y avait plus ni lance, ni bouclier. Qu'est-ce que vous voulez faire? La lance, c'est offensif, le bouclier, c'est défensif. Il ne pouvait pas prendre l'offensive et il ne pouvait pas se défendre non plus. C'est une détresse, hein. Et vous savez, tout ça, on est dans les trois jours du site d'action, là, en ce moment, j'ouvre la parenthèse, hein, vous en prendrez ce que vous voudrez. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ces maladies-là, enfin, c'est la maladie spirituelle que je parle, hein, comme on le trouve, c'est véritablement de nous enlever nos défenses immunitaires spirituelles. Vous comprenez? C'est ça le sida, hein. C'est ça. Et je l'ai répété, je le disais encore dernièrement, attention que l'Église ne soit pas atteinte d'un syndrome immunito, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais où nous ne pouvons plus avoir de défense, où nous n'avons plus de réaction d'antivirus, et on meurt, et les Églises meurent, et les chrétiens vont disparaître. Faisons attention à ça. Je vérifierai comment la... pour en ce qui concerne SIDA, je vous dirai ça une prochaine fois. Mais toujours est-il que c'est ça, l'image est là, hein, je ne porte pas de jugement naturellement. Mais, en tous les cas, en tant que pasteur, sur le plan spirituel et moral, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de réaction quelque part. Et c'est grave. « Mon cœur est au chef d'Israël, dit Déborah, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. » Cette femme... héros d'Israël, héroïne d'Israël, exprime ses réelles motivations. Elle parlera du cœur. C'est pas son patriotisme seulement qui la fait parler, mais c'est son cœur. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle aime son peuple. Elle aime ses fils et ses filles. Elle aime les enfants de Dieu. Et elle parle donc de son cœur. Et je crois que peut-être aujourd'hui, entendons cette parole qui nous est donnée dans le livre de l'Apocalypse, dans la lettre aux chrétiens d'Éphèse. « Ce que j'ai contre toi, dit Dieu, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et vous savez, quand le niveau baisse au niveau de notre amour de Dieu, de notre amour pour les frères et les sœurs, alors à ce moment-là, eh bien, il peut y avoir des problèmes. Or, Déborah avait gardé cette ferveur, cette flamme et cette ardeur dans son cœur pour l'amour de son peuple, et surtout sa délivrance, le voyant dans cet état. Si véritablement il y a des héros qui se lèvent pour combattre l'ennemi, y en a-t-il? Y en a-t-il? Est-ce qu'il y a au milieu du peuple de Dieu d'aujourd'hui, dans nos églises, encore des hommes qui disent « Non, nous n'acceptons pas ceci, nous n'acceptons pas cela. » Non pas par nostalgie d'autres temps, mais parce que c'est notre devoir aujourd'hui de prendre position, de dire, eh bien, nous voulons garder la foi. Nous voulons garder la parole de Dieu où de plus en plus on s'aperçoit qu'on ne prêche plus dans les cultes. On fait tout autre chose, où la parole, véritablement, eh bien, est réduite à peu de choses. Non. Tant que nous garderons la parole et que vous prierez pour qu'il y ait des prédicateurs qui apportent la parole, qui étudient la parole, qui seront en capacité spirituelle d'enseigner le peuple, eh bien l'Église vivra. Le jour où il n'y a plus ça, eh bien l'Église va mourir. C'est comme si vous ne preniez pas vos repas, finalement, dans tous les jours. Il y a une logique, hein. Si vous ne mangez pas, vous allez tomber en asthénie, hein, en anémie. Eh bien c'est exactement la même chose sur le plan de notre âme, puisque Jésus nous dit bien que c'est une nourriture, la parole de Dieu. Vous qui montez de blanches ânesses, vous qui avez pour siège des tapis, et vous qui marchez sur la route, chantez. Tout à l'heure, c'était bénissez Dieu. Bénissez l'Éternel. Maintenant, c'est chanter. Qu'est-ce que ce verset peut nous laisser et qu'est-ce qu'il nous enseigne? Déborah, l'héroïne, va appeler trois classes de la société à réagir et à s'armer, à se lever, à chanter la victoire de Dieu. La première, ce sont les gens de haute qualité, ce sont les princes. Parce que il nous est simplement dit et rappelé, vous qui montez de blanches ânesses, ce sont les princes. d'Israël, c'est l'aristocratie en quelque sorte. L'ânesse, eh bien, c'était un signe dans l'Antiquité de noblesse. Jésus, le roi des rois, est venu à Jérusalem monté sur une ânesse. Aujourd'hui, c'est très péjoratif parce que, enfin, on n'en voit pas beaucoup se promener avec une ânesse. Mais c'était un signe, finalement, d'élévation sociale, en quelque sorte. C'était l'aristocratie. Et Déborah disait, vous qui êtes dans les gouvernements, vous qui êtes dans les pouvoirs de la nation, mais vous ne faites rien. Alors levez-vous et chantez à la gloire de Dieu, parce que c'est lui qui va vous délivrer. La deuxième catégorie qui est interpellée, c'est tout simplement les gens aisés, c'est-à-dire les riches en Israël qui se prélassent dans le confort de leur maison, en totale indifférence de la gravité de la situation. Le texte nous le rappelle, il est dit tout simplement, « Vous qui avez pour siège des tapis ». Voilà. Cette société dans laquelle on est, où on râle toujours, nous, c'est normal, c'est français. Mais, où quelque part, eh bien, certains se plaindront, et se plaindront encore, et se plaindront toujours. Et la parole qui était adressée aux riches d'Israël, de dire, mais écoutez, arrêtez de vous plaindre. Arrêtez d'être mécontent, arrêtez, vous prélassez dans ceci, cela, mais de quoi vous avez à vous plaindre? Regardez un peu plus bas que vous allez voir. Et là, ils étaient aussi exhortés à dire, mais chantez la gloire de Dieu. Chantez la gloire de Dieu. Et puis la troisième catégorie, ce sont les plus pauvres. Ce sont les plus pauvres pour une bonne raison, qui sont sans ressources et qui voyagent à pied. C'est ce que nous avons vu. Et vous qui marchez sur la route. Ah oui, ils n'avaient pas d'ânesse. Ils n'avaient pas de belles maisons avec des tapis pour se prélasser. Mais c'était les pauvres gens du pays qui étaient certainement les plus nombreux. Et tous ceux-là sont invités à chanter et à bénir leur Dieu, qui est un gage de délivrance et de victoire et de redressement. Vous savez ce que l'on fait le dimanche matin quand on vient au culte? Eh bien, nous chantons la gloire de Dieu à travers des cantiques et des hymnes. Nous proclamons par notre bouche individuellement que le Seigneur est grand, que le Seigneur est magnifique, que le Seigneur est merveilleux, qu'il a fait des choses pour nous dans le passé et qu'il a fait peut-être encore cette semaine et ces derniers jours des choses extraordinaires. C'est louer Dieu et c'est chanter l'Éternel. Tant que l'Église, après avoir sauvegardé la parole de Dieu dans sa prédication, eh bien tant que nous aurons encore des cultes où il y a la place pour l'adoration et la louange, eh bien Dieu sera encore à sa place. Et c'est un gage de victoire et de délivrance. Une Église qui se tait, une Église qui ne fait plus rien, alors à ce moment-là, eh bien qui remplace ces choses par autre chose, c'est une Église qui est en perte de vitesse. Un peuple de Dieu qui est en perte de vitesse. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que je suis peut-être dans la détresse et dans l'épreuve, mais je bénis quand même ton nom, parce que je sais que tu vas me délivrer et faire de grandes choses pour moi encore. C'est ça la parole de Dieu, c'est ça ce que nous avons besoin. Tous les jours, lorsque nous nous retrouvons ensemble, réjouissez-vous dans le Seigneur, nous dit Paul. Réjouissez-vous, je vous le répète, réjouissez-vous. Ne laissons pas la morosité, la médiocrité peut-être de notre vie où nous avons été réduits par des circonstances difficiles, eh bien nous fermer la bouche, que notre cœur soit rempli de louanges. Et c'est ça ce que Déborah disait. Bénissez Dieu, chantez en l'honneur de celui qui va vous redresser et vous délivrer. De leur voix, nous dit la suite, les archers du milieu des abreuvoirs célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël. Alors le peuple de Dieu descendit aux portes. La voix des archers, ce sont des soldats, ce sont des tireurs. Les combattants, par ce chant, racontent les exploits de la foi et le secours de Dieu. Et pourquoi une église chante-t-elle? C'est ce que j'ai dit il y a un instant. Quelle est la raison? Parce que on pourrait dire c'est traditionnel. Il y a un petit temps de prière, il y a ensuite le chant des cantiques, il y a, voilà, comme toute une... J'aime pas le mot liturgie, mais c'est vraiment, j'aime pas ça. Hein. Mais c'est vrai que ça revient très souvent, parce que nous sommes habitués. Imaginez-vous que ce matin, eh bien, on est dit, tiens, on va commencer par le message. On va commencer par autre chose. Ce qui ne serait pas un mal, parce qu'on peut chanter après ou avant, ça n'a pas d'importance. Mais, quelque part, c'est aussi quelque chose qui a sa raison d'être. Sinon, exprimer la valeur, quand nous chantons, et la force de nos cantiques, parce qu'il y a des mots, il y a des paroles, il y a des fois des choses qui touchent notre cœur. Nous venons parfois dans l'Église, nous sommes accablés. Nous sommes aux prises, nous sommes piétinés, écrasés par des problèmes et des difficultés. Et il suffit qu'il y ait un cantique qui est inspiré à celui qui fait chanter. Et là, vous avez tout un message qui remet votre vie en route. Oui. Quelquefois, nous arrivons en panne. Et un seul cantique, ça vous touche, ça vous bouleverse. On a tous dans notre histoire de chrétiens, à un moment ou à un autre, un cantique qui nous a bouleversé alors que nous étions au plus bas. Et nous sommes repartis. Et ce cantique, nous l'avons mémorisé, nous l'avons dans notre tête et nous le chantons encore après des années. Parce que c'était le cantique que Dieu nous avait donné pour dire maintenant, eh bien, reprends la route, je suis avec toi, je te bénis. Tu vas voir la solution à ton problème. Je suis là, tu ne me vois pas, mais je suis là quand même. Et tu vas voir comment je vais changer le temps et les circonstances. Tu vas voir que je vais changer le mal en bien. Mais fais-moi confiance, chante. Chante, tout simplement. Eh bien, tous ces hommes célèbrent les bienfaits de l'Éternel, nous l'avons lu. Ainsi encouragé, le peuple se lève, prêt à l'engagement nécessaire pour sauver le pays. Il nous est dit, mais le peuple s'est mis aux portes. C'est ce que nous avons lu. Hein. Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Et là, il y avait naturellement quelque chose qui allait se produire. Qui allait se produire. Il y a ce beau texte dans le livre d'Ézéchiel qui pose une question. Ézéchiel chapitre 22 où nous avons ceci. Vous connaissez le texte. Dieu dit, je cherche parmi eux un homme. Vous connaissez, hein? Qui élève un mur de louanges, d'adoration, de chants de gloire, qui se tiennent à la brèche devant moi en faveur du pays, en faveur de l'Église, en faveur du peuple de Dieu, afin que je ne détruise point. Et Dieu dit, mais je n'en trouve point. C'était le cas de la situation de Déborah. La situation était ainsi. C'est important de pouvoir prendre en compte tout ça. Hein. Ça, c'est important. C'est ce que nous dit Ézéchiel. Je cherche un homme, je cherche une femme, je cherche un jeune homme, je cherche une jeune fille, je cherche peut-être un Caleb. Vous savez quel âge il avait, Caleb? C'était un tout jeune, il avait 85 ans. Hein. Et il a dit à Dieu, donne-moi cette montagne. Et Dieu lui a donné. Il est encore tout vigoureux. Alors, si vous avez autour de 80 ans, 90 ans, vous êtes encore plein de vitalité si la foi habite votre cœur. Hein. N'est-ce pas, hein? Ah oui. Les jeunes gens se fatiguent, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Alors, mes frères, vous en avez encore pour au moins 50 ans devant vous. Hein. Mes frères et mes sœurs. Hein. Le verset 12. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, réveille-toi, disent un cantique. Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d'Abinoam. Il y a une nouvelle phase qui s'ouvre là dans notre méditation. De la bataille à la victoire. Parce qu'on peut engager des batailles avec des défaites. Mais là, eh bien, avec la grâce de Dieu, c'est une bataille qui va amener à la victoire de la foi, la victoire de Dieu dans cette circonstance, à la victoire. Et c'est un appel vibrant au réveil animé par l'Esprit de Dieu. Si nous essayons de nous réveiller par nous-mêmes, nous risquons de nous rendormir. Mais quand c'est l'Esprit de Dieu qui nous réveille, à ce moment-là, nous restons debout et nous allons faire des choses extraordinaires. Souffle, Seigneur. Envoie le Saint-Esprit parmi ton peuple. Renouvelle-nous dans le Saint-Esprit, nous qui avons été baptisés dans le Saint-Esprit. Visite mes frères et mes sœurs qui sont là ce matin à être baptisés dans le Saint-Esprit comme à la première Pentecôte. C'est ça ce que nous avons besoin, le réveil de Dieu, mais il faut en prendre conscience. Et pour en prendre conscience, eh bien, il faut savoir le demander à Dieu. Il faut nous attendre à être baptisés du Saint-Esprit parce que c'est une promesse et c'est un don, c'est un cadeau. On ne le mérite pas, mais c'est Dieu qui va le donner. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est un rafraîchissement. Ça nous ouvre les portes du ciel. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire. Mes frères et sœurs qui n'êtes pas baptisés du Saint-Esprit, demandez-le. Sachez attendre, si vous devez attendre. Mais le Seigneur ne persévérait. Et tenez-vous dans la prière et vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Quand je dis tenez-vous dans la prière, n'oubliez pas de le remercier avant de l'avoir reçu. Et ne vous laissez pas culpabiliser en disant je suis pas assez bien. Je suis pas ceci, je suis pas cela, etc. Vous laissez ça de côté et vous dites, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, fais descendre le Saint-Esprit sur moi pour que je puisse avoir une vie renouvelée et une vie forte spirituelle. Une vie spirituelle forte et intense. Alors, il est question de se réveiller naturellement. Ce souffle d'en haut, ce n'était pas du patriotisme, je vous l'ai dit, chez Déborah, mais véritablement un souffle qui venait d'en haut, seul susceptible de stimuler notre foi, notre courage et une nouvelle vision. Quelle est notre vision spirituelle que nous pouvons avoir? C'est toujours et encore la vision de gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Nous voulons nous réjouir avec ce que le Seigneur a fait déjà avant nous. Mais nous voulons nous réjouir de ce que le Seigneur fait encore. Je le rappelle à dessein, mais bientôt nous allons avoir une nouvelle salle à Redon. Chaque chose en son temps, hein. Et là, nous pourrons pouvoir accueillir encore dans l'église annexe de Redon. Je me dis, Seigneur, tu vas renouveler là-bas. Il y aura des chaises qui vont être vides parce que nous allons passer finalement d'un endroit très exigu à un endroit où nous allons avoir beaucoup plus de largeur. Qu'est-ce que nous pouvons demander aussi pour Saint-Nazaire? C'est que les chaises vides qui sont là vides, dans les réunions de prière, dans les réunions d'évangélisation, les réunions de culte, mais qu'elles soient remplies, Seigneur. Ça, c'est notre vision et c'est le Saint-Esprit qui peut nous donner ça. Il n'y a rien d'autre. C'est le Saint-Esprit. Et puis priez donc aussi, j'en profite pour le dire au passage, c'était pas prémédité, mais priez donc après mon départ. Parce qu'il va y avoir aussi un remplaçant, à un moment ou un autre. Priez donc que véritablement ce soit un homme de l'esprit qui conduise, et qui fasse mieux que j'ai fait. Ah oui? Ah non, mais attendez, hein, on ne s'arrête pas là, hein. Et je le dis sincèrement, hein, que véritablement, moi je suis pas un évangéliste, hein, je suis un pasteur, mais qu'il puisse véritablement, tout en faisant l'œuvre pastorale, parce qu'il faut pas aller courir de droite et de gauche pour ramener les âmes, si le peuple n'est pas nourri non plus au milieu, hein. Priez donc pour ça, mes frères et sœurs. Il y a une pensée de l'esprit. Moi, je sais que cette pensée, je l'ai dans mon cœur. Mais il faut qu'elle soit partagée aussi par l'Église pour la suite. Moi, après, je vais prendre ma retraite, hein. Vous êtes tout à fait d'accord? Parce que là, je suis déjà en retraite, mais je suis très... C'est bien. Hein? Voilà. La combativité devant notre ennemi spirituel, c'est Paul qui nous en parle, hein. Quand il nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des esprits, des dominations et des esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. Alors un reste du peuple triompha des puissants, l'Éternel me donna la victoire sur les héros. Les puissants et les héros, ce sont nos ennemis spirituels. Ouais, le diable est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Les héros dans le mal, mais ils ne sont que héros dans le mal. Mais ils ont été vaincus, anéantis, par le petit nombre, un petit reste. Vous avez remarqué? Alors un reste. Et vous savez, ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il n'a pas besoin de rassembler de grandes armées pour aller à la victoire. C'est souvent avec des restes qu'il fait les choses. Et mes frères et mes sœurs qui vous tenez dans la maison de Dieu, qui priez chez vous, tous les jours, eh bien peut-être vous faites partie de ce petit reste, mais c'est avec ce petit reste que le Seigneur va donner la victoire, en appelant tous ceux peut-être qui n'ont pas pris conscience à nous rejoindre. Parce qu'on ne sera jamais aussi assez nombreux pour cela. Vous savez, quelquefois, il y a eu des églises qui ont décliné, avec quelquefois 10, 20 personnes qui restaient. Et à travers les peu qui ont resté, qui ont dit non, nous céderons pas, nous resterons. C'est l'histoire du pays le réveil du pays de Galles, hein, en 1906. Les églises étaient vraiment en dégradation et à un moment donné, un petit groupe s'était réuni pour prier. Et là, c'est toute l'Angleterre qui s'est enflammée. Faut y croire. Alors non, on se désespère parce qu'on dit, mais oui, mais nos cultes sont un peu ceci et cela. Mais non! Moi, je dis que les cultes, Dieu peut envoyer un souffle nouveau avec de nouvelles personnes, il n'y aura plus assez de place. Je suis remonté ce matin, hein. Oh là là! C'est terrible! Attendez, c'est pas fini. J'ai pas encore 90 ans, vous allez voir. Les puissants et les héros, naturellement, on vient de le dire, hein. Un petit monde, mais invisible. Une puissance invisible qui se manifeste par la foi. Puis Déborah va passer en revue l'armée de Dieu. Elle va prendre les tribus qui se sont présentées. D'abord, le contingent des braves. 6 tribus s'engagent au combat. Il y en avait combien de tribus en Israël? Il y en avait 12. Il y en a que 6 qui ont répondu. Curieux, hein? Mais ce sera toujours comme ça, de toute façon. 6 tribus ont répondu, et on va lire un peu ce qui s'est passé. D'Éphraïm arrivèrent les habitants d'Amalek. À ta suite marcha Benjamin parmi ta troupe. De Makir vinrent des chefs, et de Zabulon des commandants. Les princes d'Issacar furent avec Déborah, et Issacar suivit Barak. Pourquoi? Parce que Barak était de la tribu d'Issacar. Donc ils ont suivi leur chef tout simplement. C'est une image significative des vierges folles et des vierges sages de la parabole de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Connaissez l'histoire des vierges sages et folles? Elles ont toutes des lampes, mais il y en a 5 qui ont de l'huile et 5 autres qui n'ont pas d'huile. Et ça va faire la différence. 1 sur 2, 6 sur 12. Alors les autres, Nous pouvons nous poser la question, mais les autres, où sont-ils et que font-ils? Ce sont ceux qui restent en arrière. Ceux qui oublient leur devoir de solidarité vis-à-vis des autres tribus d'Israël. C'est un oubli de l'unité du corps de Christ, si nous voulons parler d'une manière évangélique aujourd'hui. Qui enfouissent leurs talents. Vous connaissez la parabole que Jésus nous laisse. Qui se détournent de leurs obligations en invoquant prétextes et excuses. C'est la parabole des confiés. Où le roi va faire un festin pour les noces de son fils, et il va envoyer des serviteurs en disant, eh bien voilà, venez, le festin est prêt, voilà, tout est prêt pour vous recevoir. Les uns diront, eh bien moi je viens d'acheter un champ, les autres diront, je viens d'acheter 12 paires de bœufs, ça fait déjà pas mal, hein, 12 paires, hein. 12 paires de bœufs, d'autres diront, mais je viens de me marier, alors vous comprenez, j'ai autre chose à faire. C'est exactement la configuration que nous retrouvons dans l'Ancien Testament, dans l'explication que je suis en train de vous donner maintenant. Tout ça s'est réuni dans les messages que Jésus nous enseigne. Ce qu'on appelle les paraboles. Et voici les raisons de cette défection. Disons-le. Les princes d'Issacar furent avec Déborah. Il fut envoyé sur les pas dans la vallée près des ruisseaux de Rubin. Grandes furent les résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables, à écouter le bêlement des troupeaux? Au ruisseau de Rubin, grandes furent les délibérations du cœur. Grandes furent les délibérations du cœur. Ah! Il y a Rubin, qui me semble-t-il, si je ne m'abuse, était le premier des enfants nés dans les tribus d'Israël. Je crois que c'était l'aîné, hein, Rubin. J'ai pas vérifié, mais il me semble que c'est lui. Le premier qui aurait dû être le premier est devenu le dernier, en quelque sorte. Qui reste à discuter? Ah, les discussions. Qui reste à parler sans se décider? Vous savez, ce que l'Église a besoin, c'est pas de discussion, hein. C'est pas de discuter de ceci et cela, etc., etc. Ce que l'Église a besoin, c'est de prier pour avoir la pensée du Seigneur, du Saint-Esprit, pour savoir ce qu'il y a à faire. Aujourd'hui, nous passons un temps infini à discuter. Des concertations, des ceci, des cela, etc. Alors qu'il y ait une communion fraternelle, je parle entre pastorales, hein, qu'il y ait une... Voilà, c'est bien, et moi j'apprécie, hein, quand on peut se retrouver autour d'une bonne parole, hein, enseignée par un frère au milieu de nous, etc. Mais quand on passe des jours et des jours uniquement à discuter, je peux vous dire que ça devient quand même un petit peu ennuyeux. C'est comme à l'Assemblée nationale. Je ne dis pas trop de choses qu'il faut pas. Où on va discuter et finalement, ça n'enfantera que d'une souris, vous comprenez? C'est toujours les mêmes choses. Toujours les mêmes choses, on n'arrive pas à se décider, ceci, les délibérations, on en a parlé, hein, sans se décider. Et pourtant, la Bible nous dit rachetez le temps, hein. C'est pas le moment de discuter. C'est pas le moment de descendre dans la vallée d'Ono, comme vous savez que Néhémie avait été, sollicité pour dire, eh bien, venons, discutons, et puis nous allons voir ce que nous pouvons faire ensemble. Néhémie, il a dit niette. Je parlais russe, hein, déjà, à l'époque. Alors, il a dit non, je descendrai pas, j'ai autre chose à faire. Rappelez, rachetez le temps. Rubens, écoute complaisamment. C'est une façon de présenter les choses d'une manière un petit peu, moqueuse. Le bêlement des troupeaux. Oh, qu'est-ce que nous entendons des choses dans notre monde qui nous font perdre notre temps, qui captivent notre pensée, qui remplissent notre cœur, qui empoisonnent notre âme et qui perturbent notre esprit. Le bêlement des troupeaux, statu quo majoritaire, parce que tout le monde a dit que c'était comme ça. Eh bien, faut faire comme tout le monde. Vous m'excuserez, Jésus n'a pas suivi le statu quo de son temps. Hein. C'est pour ça qu'on l'a crucifié. Je ne prêche pas la révolution pour autant. Hein. Parce que moi, j'aurais pas me retrouver quand même en prison. C'est le pasteur qui a dit ça. Hein. Non, mais il y a un conformisme quelquefois. Il faut savoir être des hommes, il faut savoir prendre nos décisions et savoir en qui nous croyons et ce que nous voulons croire. Déborah avait l'air de savoir ce qu'elle voulait, en tout cas. Et Rubin préférait sa tranquillité champêtre, parce que c'est ce qui est un peu dit, hein, c'est un peu en forme de poème, à la nécessité du combat spirituel. Rubin n'a pas eu encore à souffrir de l'oppression de l'ennemi parce qu'il se trouvait un peu dans une région où là, eh bien, il n'avait pas eu trop cassé. Hein. Son pays était un pays riche, puisqu'il nous est dit arrosé de ruisseaux. En Israël, c'est quelque chose, une fortune, hein. Arrosé de ruisseaux, et que lui importait la misère de ses frères. La pauvreté des autres l'indifférait. Et vous savez, s'il y a une pauvreté qui doit nous toucher, c'est pas seulement une pauvreté matérielle, C'est vrai qu'il y a à prendre en considération, mais c'est la pauvreté morale et spirituelle de notre monde d'aujourd'hui. Qui s'en préoccupe? Voilà. Des hommes qui se perdent? Des hommes qui, une jeunesse, qui s'en va à volo? C'est terrible, hein. Et je vais bientôt terminer le verset 17. Galaad, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan s'est-il tenu sur ses navires? Aser s'est assis sur le rivage de la mer et il s'est reposé dans ses ports. Trois tribus démotivées. Alors vraiment démotivées. Galaad ou Gad, si vous aimez mieux, si vous connaissez bien votre Bible, qui se trouvait à l'est du Jourdain. C'était les premiers qui ont été servis dans la distribution. Qui ne fait qu'entendre les conseils de son égoïsme. Il se dit, mais pourquoi j'irai aider les autres? Pas d'effort. Il nous est dit qu'il est resté dans sa demeure, bien tranquillement. Son confort et ses aises. Il y a ensuite Dan, qui était en haut, dans le nord d'Israël. Il y avait Aser, qui étaient deux belles provinces, deux belles tribus, paisibles, dans un cadre d'existence et enchanteur, qu'ils ne veulent pas être dérangés. Vous savez où habitaient finalement Dan et Aser? Ils habitaient à Saint-Nazaire. Vous savez pourquoi? Si vous regardez. Ils étaient près de la mer. Oui, c'était les tribus qui étaient à proximité de la mer. C'est pour ça que je vous ai dit à Saint-Nazaire, hein. Oui. C'est bien, hein. C'est bien le bord de mer. Ah oui. Mais attendez, hein. Si Dieu nous a placés ici, et moi je crois que c'est pas le fait du hasard que vous êtes nazériens ou que vous êtes là sur le littoral, c'est qu'il y a un travail immense à faire. Vous savez combien il y a d'habitants sur le littoral entre le sud, la Loire-Atlantique et le nord jusqu'au Morbihan? Combien? 400 000 habitants? Ben, il y a du travail à faire, hein. Quand on sait que le département de Loire-Atlantique, il y a quand même 1 300 000 personnes. Il y a du travail. Il y a quelque chose. Alors, ils étaient restés tout simplement au bord de la mer. Il y parlait de navire. Le navire, ça vogue, ça berce, hein, quelquefois. Ils étaient assis, ils étaient en repos, reposés, et ils étaient dans les ports. Qu'est-ce qu'il y a de plus sécurisant que d'être dans un port? C'est quand même moins dangereux que d'être au milieu de la mer, hein. Pour une vie matérialiste, ses intérêts d'abord. Leurs intérêts d'abord. Verset 18. Zabulon est un peuple qui affronta la mort et Neptali de même sur les hauteurs des champs, et je vais bientôt finir. Hommage aux courageux. Vous savez, il était question des braves au départ, ensuite de ceux qui restent en arrière, et puis de ceux qui vont de l'avant. Hommage aux courageux. Il y a deux noms, Zabulon dont nous avons parlé tout à l'heure et Neptali. Ce sont des héros pour leur énergie, leur intrépidité, et qui sont prêts à tout jusqu'au sacrifice, jusqu'à la mort. C'est Paul qui dit cela, hein, que je vive ou que je meure, je suis pour le Seigneur. Ouais. Dans l'Apocalypse, au chapitre 2, il y a cette belle phrase qui fait partie peut-être des églises dont nous parlons très peu, mais qui quand même a sa raison d'être. Écoutez, 2, 9, il est dit, Dieu dit, je connais ton affliction, tes épreuves, et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de ceux, de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Vous savez qu'il nous attend une couronne sur la tête? Quand nous arriverons de l'autre côté, il y a la couronne de vie, la couronne de gloire. Il y en a d'autres aussi. Je te donnerai la couronne de la vie. Vivre ou mourir pour le Seigneur, telle est la devise des héros de la foi. C'est le prix de la vérité et de la liberté. Neptali, ça veut dire tout simplement ma lutte. Eh bien, que chaque chrétien puisse dire dans sa vie spirituelle, Dieu est ma lutte. C'est mon combat, non pas avec Dieu, non pas contre Dieu, mais avec Dieu. Neptali, ma lutte, sur les hauteurs des champs, pour nous dire et pour connaître des victoires spirituelles, il faut s'élever et prendre de la hauteur. C'est pas les contingences de notre vie matérialiste, de notre vie de tous les jours, routinière et tout ce que vous voulez, qui va nous amener encore un peu plus près du Seigneur. La priorité doit revenir au Seigneur, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste. Il s'en occupera largement. Et je termine dans ce chapitre par le verset 31, où il nous est dit ceci, c'est la fin du chapitre. Hein. Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel, ceux qui t'aiment sont comme le soleil. Quand il paraît dans sa force, le pays fut en repos pendant 40 ans. C'est l'épilogue du cantique de Déborah. et la victoire en revient à Dieu seul. Mais quelle bénédiction ! Pour ceux qui le servent fidèlement, puisqu'il est dit, ceux qui l'aiment sont comme le soleil. Ouais, je trouve que c'est beau, hein ? Ça ne vous aimez pas ? Comme le soleil. Nous, on a un petit peu besoin en ce moment, non ? Peut-être de soleil, hein ? Comme le soleil, quand il paraît dans sa force. C'est-à-dire que c'est la promesse de la pleine lumière. Un feu qui purifie les scories de l'égoïsme, de la paresse et de l'indifférence. C'est ce que nous avons lu, hein. L'unité de la foi et de l'esprit, puisque la dernière phrase de ce chapitre nous dit « Le pays fut en repos pendant 40 ans ». Ils avaient été occupés pendant 20 ans, Dieu a multiplié par deux, finalement, le bénéfice. Mais ça aurait dû durer 80 ans, 100 ans, ça aurait dû durer toujours. C'est Paul qui nous dit ceci en dernière instance. Devant Dieu, ils n'étaient, c'est les chrétiens, hein, ils n'étaient qu'un seul cœur, une seule âme, une seule pensée et d'un seul esprit. Retour aux décisions, grandes furent les résolutions du cœur, sans perdre notre vie et notre temps dans des délibérations qui ne mènent à rien. Je crois que l'Église a besoin de comprendre qu'il faut avancer. Si elle veut subsister, si elle veut demeurer, et c'est pas le moment de baisser les bras, où là nous sommes engagés dans un nouveau combat, tant pour Saint-Nazaire que pour Redon, et de pouvoir prier pour qu'il y ait des héros qui se lèvent au milieu de nous. Priez, parce que la moisson est grande, mais il y a si peu d'ouvriers dans la moisson. Alors, ne restons pas en arrière, frères et sœurs. Marchons, soyons remplis du Saint-Esprit, vivons la parole de Dieu, et engageons-nous, consacrons-nous, finalement, à ce que le Seigneur nous demande. On va prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ta parole restera toujours ta parole. Elle est la vérité et c'est elle qui nous donne la liberté. Parce que le grand débat de cette méditation, c'est que Israël avait perdu sa liberté parce qu'elle ne savait plus où était la vérité. Alors, nous voulons te demander, Seigneur, que pour les temps qui viennent, tu nous gardes, Père éternel, Seigneur vigilant. Que tu nous gardes éveillés et que tu souffles, Seigneur, de ton Saint-Esprit, un souffle nouveau pour que nous puissions tout à nouveau avoir une vision, Seigneur, renouvelée. Et qu'ainsi nous puissions être comme cette femme qu'il y ait au milieu de nous des Déborahs et qu'il y ait aussi des hommes, des baraques qui se lèvent. Oui, Seigneur, en effet, nous croyons, Père éternel, que tout cela a un sens. Et si cela nous a été rappelé, si nous avons été fouillés, Seigneur, dans l'interprétation et la compréhension de ces textes, c'est que c'est encore pour nous aujourd'hui. C'est pas une vieille histoire, c'est une histoire toujours actuelle. Merci Seigneur pour Déborah, merci également pour Barak, merci pour ces hommes qui ont été véritablement des chefs, qui ont été en effet des princes dans le domaine de la vie morale et spirituelle. Et leur exemple, Seigneur, eh bien, vaut encore pour nous aujourd'hui. Tu bénis ton peuple. Tu nous bénis, Seigneur, que ce ne soit pas après avoir écouté, en effet, Seigneur, cette parole où nous disons Amen, c'est vrai, Seigneur, en tant que chrétiens, de nouveau, nous disons Amen, mais que ce ne soit pas un feu de paille et que demain ou après-demain, dans 8 jours, dans 1 mois, nous ne nous souvenions plus rien du tout. C'est une question de discipline, Seigneur, et de pouvoir, en effet, Père éternel, créer en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, le vouloir et le faire. Merci, Seigneur, de ce que tu visites ton Église, ton peuple. Merci. Que ton nom soit béni, et nous voulons chanter en ton honneur. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.